quatre murs. Des pilules, des pitchers. Sa mature et des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur. C'est ça la médecine. Me faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. On peut toujours soutenir Radio Libertaire, n'est-ce pas, sur le site, en trouvant le bon de souscription à radio-libertaire.net ou .org ou encore .fr. On peut aussi avoir la carte d'auditeur en écrivant ou en se rendant à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou bien République. Aujourd'hui, l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, une interview de Michel Lison. Sans domicile, il vit dans la rue depuis les années 70, traversant le glauque des institutions religieuses, catholiques en l'occurrence, le glauque des hôtels, celui de l'alcool des rues, lui ne boit pas, et enfin le glauque de la psychiatrie dans et hors les murs. Hors les murs, quand on la retrouve là même où on ne s'attend pas à la retrouver.
Alors, d'abord, je m'appelle Michel Lison. Michel Lison, c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudo. Et j'ai fait mon service militaire en 1975-76, en tant qu'infirmier. Parce qu'au préalable, j'ai été bénévole à la Croix-Rouge pendant 5 ans. Durant ces 5 années, j'ai obtenu une flopée de diplômes, une douzaine à peu près, notamment moniteur de secourisme, certificat de capacité d'ambulancier, etc. Et donc, à l'armée, j'ai voulu prolonger cette activité que j'avais à la Croix-Rouge. J'ai pas voulu faire infirmier pour me planquer, comme certains militaires appelés veulent le faire. C'était parce que c'était mon violon dingue, si je puis dire. Seulement, le rôle d'infirmier, c'est pas tout à fait la même chose que le secourisme. Le secourisme, c'est être sur le terrain. Éventuellement, dans mon cas, c'était de faire de la désincarcération de blessés dans des véhicules, dans des voitures. Ça pouvait aller jusque-là. C'était faire des cours de secourisme aussi, dans mon cas. Mais à l'armée, c'était plutôt soigner des petites plaies, s'occuper de malades ayant des infections. L'infirmerie où je travaillais, à Wittlich, en Allemagne, c'était en fait un petit hôpital dont le premier étage était occupé par des lits. C'était tout à fait semblable à un secteur hospitalier. Et là, donc, j'étais pas vraiment à mon aise, c'était pas vraiment du secourisme, comme je viens de le dire. Et puis, petit à petit, sans rentrer dans des détails un peu trop longs, j'ai eu une sorte de crainte vis-à-vis des microbes. J'ai eu la crainte des microbes et je me suis lavé les mains excessivement, des douches excessives, etc., etc. Et quand je suis retourné chez moi, mes parents ont bien vu que mon comportement avait changé. Et ils ont décidé de me faire hospitaliser à Villévrard. J'ai fait une grève de la faim, qui a duré pour l'une d'entre elles, il y en a eu deux, je crois, une qui a duré 19 jours, sans manger ni boire. J'ai considérablement maigri, pour obtenir un changement de ma situation, puisque mes parents m'avaient placé en placement volontaire, ce qu'on appelle maintenant les HDT, qui est hospitalisation à la demande d'un tiers. Et moi, je voulais être en hospitalisation libre. Pour ensuite sortir, c'était ça mon but. Et j'ai obtenu ça par cette grève de la faim, mais malheureusement ça n'a rien changé, puisque de force on m'a fait ce qu'on appelle une cure de Sakel. Une cure de Sakel, c'est un choc hypoglycémique Ça consiste à injecter de l'insuline au patient et il se passe un phénomène. D'ailleurs, un psychiatre, le professeur Baruch, a étudié ce phénomène. Si on ouvre la boîte crânienne d'un singe et qu'on injecte cette quantité d'insuline adéquate pour faire une cure de saquelle, on s'aperçoit que le cerveau sort de la boîte crânienne, c'est une véritable érection. Alors le but voulu de cette cure de saquelle, c'est de détruire les cellules malignes qui seraient en cause de la maladie et de conserver les bonnes. Seulement l'ennui, c'est que c'est pas sélectif, ça détruit un peu tout. Et d'ailleurs, la cure de saquelle, à l'époque, moi je l'ai subie en... c'était vers fin 76, c'est une pratique qui était abandonnée pratiquement dans tous les pays du monde, mais en France, on l'a conservée encore, alors que c'était une pratique dangereuse et inutile et nuisible. Et d'ailleurs, le professeur Saquel, hein, la cure de Saquel, c'est du nom de l'inventeur, si je puis dire. Le professeur Baruch, qui était un psychiatre qui défendait la cause des psychiatrisés, c'est très très rare, qui est décédé depuis longtemps, m'a dit que Saquel était un bien nommé, parce que Saquel, en langue hébraïque, ça veut dire un imbécile, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, mais enfin qui se trompe perpétuellement. Bon. La cure de Saquel a été supprimée. D'ailleurs, dans un livre très intéressant intitulé « Soigner à tout casser », c'est une édition belge, écrit par deux femmes qui ont été victimes de psychiatrie dans leur pays. Une a subi une cure de saquelle, l'autre, je crois, des électrochocs. L'une est devenue médecin spécialiste, l'autre, elle est artiste, je ne me rappelle plus de quelle sorte. Et elles ont écrit ce bouquin en commun pour dénoncer justement les injustices qui se passent au niveau psychiatrique en France et en Belgique. Alors j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il y a un fait qui me vient à l'esprit, là je bifurque un petit peu, c'est que dans ce livre, il est question d'un malade en Allemagne qui a voulu créer une association pour défendre les malades psychiatrisés. Et un beau jour, il n'a pas pris ses médicaments, il est sorti dans la rue, il a eu une crise, il s'est fait interner. Et le médecin psychiatre qui l'a récupéré, qui savait évidemment que ce gars-là voulait faire une association, lui a donné une dose un traitement carabiné, 5 fois supérieur, je crois, à la normale. Il est mort. Il est décédé à cause de ça. Et le médecin psychiatre, au lieu d'être sanctionné, a obtenu une promotion. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai subi cette cure de saquelle. Et quand je suis ressorti de l'hôpital, ben, au lieu d'avoir une maladie, à savoir ce qu'on appelait à l'époque la névrose obsessionnelle, qu'on appelle maintenant des troubles obsessionnels compulsifs, le lavage de mains, etc., je suis ressorti avec deux maladies. Je suis rentré avec une, je suis ressorti avec deux, à savoir j'avais une dépression en plus carabinée. Et j'étais obligé d'aller voir après ma sortie de l'hôpital. Alors, déjà, il faut dire une chose, c'est qu'on pensait que j'étais guéri. Parce que souffrant tellement par ma dépression, j'avais laissé tomber tous mes lavages de mains, etc. Donc j'avais un comportement apparemment normal. Alors qu'en fait, j'étais beaucoup plus malade que lorsque j'avais mes TOC. Et donc, il y avait même un infirmier qui m'a dit « Alors, tu veux plus sortir maintenant que tu es guéri ?» Ça m'a fait vraiment mal parce que je savais très bien que c'était tout à fait le contraire. J'étais bien dans un état bien plus grave qu'auparavant. Et lui, il pensait que j'étais guéri. C'était une situation vraiment surréaliste. Je suis sorti et périodiquement, je devais aller voir le psychiatre qui s'occupait de moi à Villebras. Et puis un beau jour, j'y ai fait comprendre que je voulais redevenir comme j'étais dans mon état antérieur, hein, parce que je me sentais mieux malgré mes lavages de mains. Et puis j'ai pu je prenais pas mes médicaments et j'ai pu me débarrasser de ce psychiatre, sans doute avec l'aide de mes parents. Mes parents ont reconnu qu'ils avaient eu tort de m'avoir fait interner. Ils ont eu tort, mais bon, c'est vrai que c'était difficile pour eux parce que des lavages de mains continuellement dans l'appartement où nous vivions en commun, c'était quand même assez pénible pour eux. Surtout qu'ils m'aimaient beaucoup en plus.
Et c'était à cause de tes TOC qu'ils ont voulu t'interner ?
Oui, c'est ça, parce qu'ils voyaient que j'avais un comportement anormal, qui était très, très prenant, qui prenait beaucoup de temps. Hein. Quand je me lavais les mains, je ne sais pas combien de temps ça durait, mais ça pouvait durer 1 heure à chaque fois, et plusieurs fois par jour. Hein. C'était à peu près de cet ordre-là. Hein. Bon. Puis en plus, des fois, je ne mangeais pas, parce que bon, pour manger, il fallait que je me lave les mains, pour prendre la fourchette, et c'est cela, toujours la peur des microbes. Mais c'est plus compliqué que ça. Hein. Je dis franchement, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, j'avais peur de deux choses, d'une chose encore bien pire. C'est que lorsque j'ai eu 11 ans, on m'a injecté des produits hormonaux qu'on appelle la gonadotropine. Ces produits visaient à me faire grandir parce que mon père craignait que je sois trop petit une fois arrivé à l'âge adulte. Et j'ai subi ce traitement, j'ai grandi très rapidement, j'ai vu que ma morphologie avait changé, mon système pileux était apparu, j'avais eu des désirs sexuels à un âge quand même assez jeune. Et ça m'a vraiment traumatisé, si je puis dire. Traumatisé, tout au moins soucié extrêmement. Et j'ai fait le serment de ne plus jamais avoir de contact avec de tels produits. Voilà. Et quand j'étais infirmier, justement, on utilisait des produits. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, je ne savais pas ce que c'était que les hormones. Et quand j'étais infirmier, bon, ben, il y avait des corticoïdes, il y avait des substances hormonales qu'on pouvait utiliser ici et là. Et ça aussi, ajouté aux microbes, c'était une des causes pour lesquelles je prenais des douches et des lavages de mains, etc. etc. Voilà. Donc, voilà. Alors, je suis sorti de l'hôpital Ville-Évrard.
Nous sommes en train d'écouter l'interview de Michel Lison, sans domicile. Il vit dans la rue depuis les années 70. Et, pardon. Et cette interview a lieu dans un couloir de métro. Nous écoutons la suite.
Donc j'étais à l'issue de la sortie de cet hôpital. Mes parents n'ont convenu qu'ils avaient eu tort de me faire hospitaliser, mais malgré tout, il faut comprendre leur situation. C'est que quand on est malade mental et qu'on ne connaît pas la psychiatrie en France, la psychiatrie entre guillemets, eh ben, ça semble être la solution. Or, ce n'est pas forcément la solution, loin de là. Et je suis resté chez moi avec ma dépression, et petit à petit, ma dépression a diminué d'elle-même. Ça a mis quand même quelques années, je sais pas, peut-être 2 ans et demi quand même, hein, facile. Et au fur et à mesure que cette dépression diminuait, je reprenais le dessus. Mais en reprenant le dessus, du même coup, je reprenais mes tocs, mes manies, parce que j'essayais justement de m'en sortir par moi-même. C'est difficile à expliquer. Et puis un beau jour, bon, bah, je suis resté allongé au lit, je me levais plus. Il faut savoir qu'au retour du service militaire, j'ai été licencié. Juste avant de quitter l'armée, j'ai reçu ma lettre de licenciement. C'était en 76. Et donc, je restais au lit. Mes parents se sont inquiétés à nouveau. Parce que des fois, je ne mangeais pas. Bon, enfin, ça allait loin, ça allait très loin. Et lavage de mains, etc. Et mes parents m'ont refait hospitaliser, cette fois-là, à la maison de santé d'Épinay. Alors, la maison de santé d'Épinay, c'est une maison privée. C'est l'ancienne résidence de Madame d'Épinay, c'est-à-dire la maîtresse de Jean-Jacques Rousseau. Et là, bon, on m'a laissé tranquille. Dès que je suis arrivé dans cet hôpital, j'ai dit à mon père, écoute, je veux voir le professeur Henri Baruch. Alors pourquoi le professeur Henri Baruch? Parce que en 1977, j'ai entendu une émission à la radio qui s'appelait Radioscopie. Il y avait un journaliste célèbre à l'époque qui s'appelait Jacques Chancel, qui était le commentateur de cette émission, si je puis dire. Et il y avait un invité à chaque fois, ça pouvait être un médecin, un historien, un écrivain, toutes sortes de personnes. Il y a notamment Jean Bernard, l'ancien président du comité d'éthique, qui avait été invité. Et là, c'était le tour du professeur Henri Baruch. Et je me suis dit, bah, tiens, voilà un psychiatre qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, c'est pas si fréquent, et qui a l'air d'être un brave homme. Et lorsque, après avoir écouté cette émission, j'ai gardé ça en mémoire, je me suis dit, si jamais je me fais réinterner, ben je demanderai à voir ce professeur. Et justement, le jour où j'ai été réinterné à la maison de santé d'Épinay, j'ai dit à mon père, je veux voir le professeur Baruch. Et il venait me chercher, mon père, avec sa voiture, en taxi, pour qu'on aille voir le professeur Baruch, qui était l'ancien directeur de la maison de santé de l'hôpital de Charenton, hein, qui se trouve à Saint-Maurice. Et là, le contact a été très bon. J'ai vu que c'était un homme, justement, qui allait à l'encontre de ses confrères, mais qui avait une personnalité très forte, et de ce fait, bon, on le laissait quand même assez tranquille. Et lorsque je lui disais, monsieur le professeur, vous savez, j'ai été infirmier, est-ce que vous pouvez me parler de psychiatrie? Il me disait, ne parlez pas de psychiatrie à moi, ne parlez pas de psychiatrie à moi, qui répétait. Tout simplement parce qu'il était contre ce qu'était devenu la psychiatrie en France, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspond pas véritablement à de la médecine. C'est plutôt quelque chose de répressif, quelque chose où on pratique justement ce que lui appelait la thérapeutique forcée, c'est-à-dire qu'on oblige les gens à subir des traitements, des injections notamment, et évidemment c'est ressenti d'une manière très dure, c'est ressenti comme un viol et ça peut traumatiser. Et c'est pas en traumatisant les gens qu'on les guérit. Voilà. Et donc j'ai eu un bon contact avec ce médecin qui était neuropsychiatre et qui était aussi médecin expert, qui a écrit un bouquin à l'époque d'ailleurs en 78-79 qui s'appelait Des hommes comme nous, où il dénonce justement toutes les tortures, on peut dire, que subissent les psychiatrisés en milieu hospitalier psychiatrique. Et donc à l'hôpital d'Épinay, à la maison de santé d'Épinay, on me laissait tranquille. J'ai eu aucun traitement médicamenteux, on me fichait la paix. C'était une nécessité, cette hospitalisation, non pas pour que j'y... pour avoir des soins, mais parce que j'étais quand même assez très perturbateur en ce qui concerne ma famille, mon père et ma mère. Et donc ils avaient besoin d'être un peu en paix, que je ne sois pas avec eux. Et donc on a procédé à cette hospitalisation justement pour que je les laisse tranquilles. Voilà. Et à l'issue de cette hospitalisation, bon, pendant cette hospitalisation à Épinay, je rouspétais parce que je considérais que mes parents ne faisaient rien pour m'en faire sortir. Ils ne m'avaient pas dit que c'était eux qui étaient à l'origine de cette hospitalisation. Moi, je crois que c'était l'administration qui avait décidé, qui en avait décidé. Et donc, quand je téléphonais à mes parents de cette maison de santé, je les engueulais assez souvent. Et j'avais décidé de rester, puisqu'ils ne voulaient pas me laisser sortir, ben pour les punir, parce que c'est assez idiot, j'avais décidé de rester aussi longtemps que nécessaire, si je puis dire. Enfin, et au bout d'un an, bon, ben je suis sorti, j'ai dit à mon père, voilà, je veux sortir. Et en fait, je me suis sauvé. Il y avait un infirmier qui m'a dit « Écoute, est-ce que tu peux aller m'acheter le journal ?» J'ai dit « Oui, d'accord, je vais vous acheter le journal, je vous le rapporte. Je vais te donner de l'argent, comme dit l'infirmier. » Je dis « Non, c'est pas la peine. » Parce que je savais très bien que je n'allais pas revenir et que je n'allais pas lui apporter le journal. Et je suis sorti de l'hôpital, de la maison de santé, et je suis rentré de chez moi à pied. Alors au cours de cette hospitalisation, j'ai connu trois personnes. Trois malades. Trois internés plutôt, disons, parce que c'est pas parce qu'on est interné qu'on est forcément malade. Et il y avait Jacques. Jacques venait là pour des dépressions, c'était un alcoolique. Il y avait Jean-Louis. Alors, je ne sais pas pourquoi il était là, mais enfin c'était quelqu'un qui était baron d'Empire, c'est-à-dire que c'était un noble napoléonien, si l'on peut dire. Il avait une trentaine d'années. Jacques, il avait 36 ans. Et il y avait Alain. Alain, il venait là pour des dépressions. Il avait 21 ans environ. Alors je suis sorti de cet établissement, je me suis débarrassé quand même assez considérablement de mes tocs, par moi-même, c'est pas évident, enfin bon, j'y suis arrivé un peu, mais j'en ai toujours un peu, hein, malgré tout, un peu, mais disons que c'est peut-être de l'ordre de 1 à 2% de ce que j'avais à l'époque, c'est tout à fait vivable. Ce genre de problème psychologique ou psychiatrique, c'est vivable, alors que la psychiatrie, enfin, psychiatrie à la française, c'est souvent invivable. Bon. Et alors, donc, j'ai quitté l'établissement et pendant les années qui ont suivi, j'ai conservé des relations avec Jacques, Jean-Louis et Alain. Et Alain, un beau jour, peu de temps après mon hospitalisation à la maison de santé d'Épinay, me téléphone et me dit « Voilà, j'en ai marre, on me donne des poignées de médicaments. » Effectivement, à Épinay, j'ai vu des gens qui avaient une poignée de comprimés dans la main, de toutes les couleurs. Il me dit « J'en ai marre, t'as raison, je me suis sauvé. » Alors j'ai dit « Bon, c'est que tu es ?» Il me dit « Mais je suis à Saint-Denis, place du 8 mai 1945. » J'ai dit « Bon, ben attends, je prends un taxi, je vais te rejoindre. » Je le rejoins et comme je sais qu'il était assez craintif, j'ai dit « Je parie que tu as eu peur que j'appelle la police. » Il m'a dit « Oui, j'ai cru que tu allais appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. » Et j'ai dit « Écoute, tu es dans une situation un peu particulière, tes parents sont pas au courant que tu t'es enfui, à Épinay ils vont faire quelque chose, ils vont appeler sûrement la police peut-être pour t'intercepter, il faut trouver une solution. » J'ai dit « Écoute, on va aller voir le professeur Baruch si t'es d'accord. » Alors il voulait pas du tout, parce que lui il en avait marre de la psychiatrie, il voulait plus en entendre parler, ça a été difficile. Et j'ai dit « Écoute, si tu veux, on va aller en direction du cabinet du professeur Baruch, et si en cours de route tu veux pas y aller, bon, t'iras pas. » Alors petit à petit, comme ça, avec beaucoup de persuasion, si je puis dire, mais avec douceur, j'ai réussi à l'amener en bas du cabinet du professeur Baruch. Et en arrivé en bas, il y avait une cabine téléphonique à l'époque, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Voilà, monsieur le professeur, je suis avec un ami, il vient de s'enfuir de l'hôpital d'Épinay, est-ce que je peux monter ?» Il m'a dit « Montez tout de suite. » Parce que Baruch, c'était quelqu'un comme ça. C'était pas quelqu'un qui vous disait « Vous prenez un rendez-vous, vous viendrez dans un mois. » Non, non, c'était tout de suite. C'était vraiment quelqu'un qui était marié avec sa médecine, si l'on peut dire. C'était un juif très croyant, qui était, je crois, l'ami du grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Et il appliquait sa foi dans sa médecine. Il disait toujours qu'il fallait faire les choses avec cœur. Et c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, justement. C'était aussi un justicier, un grand justicier. D'ailleurs, il en fait part dans son livre, sans le dire lui-même, parce que c'était quelqu'un qui était quand même humble. Et donc j'arrive avec Alain dans le cabinet du professeur Baruch, et il y a un contact qui s'établit, et il dit, bon, bah écoute, il dit à Alain, téléphonez à votre mère pour pas qu'elle s'inquiète. Alors le professeur Baruch, au préalable, avait téléphoné à la maison d'Épinay, je crois, ou il l'a fait après, pour leur dire que, bon, Alain, il était en sécurité et que les choses s'arrangeaient, si l'on peut dire. Et alors, il téléphone à sa mère, et puis tout s'arrange. Il rentre chez lui. Après quelques temps, on est sorti, je crois même. On a été se balader à Saint-Michel. On a dû aller dans un restaurant. J'y avais prêté un billet de 100 francs, même à l'époque. J'avais même payé la consultation à Baruch. Mais Baruch, j'avais dit, monsieur le professeur, j'ai 100 francs sur moi. Alors que la consultation, c'était 200 francs. Il m'a dit, ça fait rien. C'est bien comme ça. Monsieur Baruch, même, il avait dit à mon père, si votre fils veut venir, veut que je l'aide, il peut même venir en consultation, je ne le ferai pas payer. Baruch, c'était comme ça. C'était quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'argent. Et malheureusement, Baruch m'avait dit, il faut l'épauler, votre ami, là, il a des dépressions, il faut l'épauler. Moi, je n'ai pas fait tout ce qu'il faut. Et puis un beau jour, j'étais dans mon appartement avec mes parents. Il faut savoir que je suis propriétaire de mon appartement et que mes parents vivaient avec moi. J'étais avec mes parents, le téléphone sonne, mon père va décrocher et mon père éclate en sanglots. J'ai compris qu'Alain s'est suicidé. Voilà. Alors comment ça s'est passé? C'est que le professeur Baruch avait changé son traitement. Baruch, c'était pas quelqu'un qui donnait des médicaments en quantité astronomique. Loin de là, c'était plutôt le contraire. Les laboratoires n'ont pas fait beaucoup d'affaires avec lui. Et ça s'est passé comme ça. C'est que Alain, il avait la hantise que les gens le laissent tomber. Parce qu'il faut savoir que quand on est un psychiatrisé et que ça se sait, quand il y a notamment une trahison du secret psychiatrique, secret médical psychiatrique, il y a beaucoup de gens qui nous tournent les talons et qui nous rejettent. On est victime de ségrégation. Et lui, il avait peur de ça. Et quand j'allais le voir chez lui avant qu'il décède et que j'arrive en retard, je disais à sa mère, je parie qu'il vous a dit que je l'ai laissé tomber. Mais oui, il a eu peur de ça. Il avait peur qu'on le laisse tomber. Parce que tous ses amis qui avaient son âge, une vingtaine d'années, ils lui ont tourné le dos lorsqu'ils ont su qu'il avait été en hôpital psychiatrique. Et ça s'est passé comme ça. C'est que le professeur Baruch avait changé son traitement. Et il y avait tout un tas de médicaments. Le professeur Baruch avait dit, bon, ben, vous rendrez ça. Je suppose que ça s'est passé comme ça, c'est un détail. Enfin, il fallait rendre ces médicaments à la pharmacienne pour qu'elle les détruise, puisqu'il n'en avait plus besoin. Et la pharmacienne a dit, mais non, a dit à sa mère, mais non, gardez-les, on ne sait jamais, il peut en avoir besoin plus tard. Alors, ils ont gardé les médicaments. Et pendant la nuit, Alain, il a pris tout ça. Tous ces médicaments qu'il avait conservés, il a mis ça dans une bouteille en plastique avec de l'eau, il a avalé le tout, il a ouvert la porte de son appartement, il est descendu. À ce moment-là, ça, je l'ai su par la suite, sa mère a entendu un bruit, mais elle était épuisée, elle ne s'est pas levée. Et le lendemain matin, lorsque son père a été à son travail, il a trouvé son fils allongé sur le parking de la cité HLM. Il était encore chaud, il y avait une voiture de police à côté avec le gyrophare. Son fils était mort, voilà. Il avait une marque au front, je me rappelle. Il a dû se la faire en se cognant ou en tombant sur le sol, je ne sais pas. Voilà. Il avait 22 ans à peu près. Ensuite, je voyais Jean-Louis de temps en temps, un des amis que je m'étais fait à Épinay. Et Jean-Louis, je l'ai vu peut-être 3-4 fois. J'y écrivais tous les ans pour lui souhaiter la bonne année. Puis un beau jour... je reçois une lettre, après lui avoir envoyé moi-même une lettre pour lui souhaiter la bonne année, et je savais pas trop ce que c'était dans cette lettre, je comprenais pas, il y avait des imprimés, il y avait sa photo, on le voyait en train de tenir une guitare, et puis j'ai relu la lettre, et c'était des imprimés, hein, c'était pas une lettre, et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, c'était des lettres d'une église qui indiquait qu'il y avait eu son enterrement, quoi. Il était mort lui aussi. Alors j'ai téléphoné à son père, et j'y ai demandé comment ça s'était passé. Alors, il m'a donné une raison qui m'a semblé invraisemblable, mais je vais la dire parce que j'ai pas d'autres éléments. C'est que Jean-Louis, il espérait guérir. Alors sa maladie, si on peut dire, c'est qu'il avait un peu la folie des grandeurs, d'après ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'ai jamais rien vu d'anormal chez ce gars-là, mais enfin, il avait la folie des grandeurs. Il paraît qu'il aimait bien il aurait apprécié qu'on déplie le tapis rouge devant lui pour être honoré, etc. Et donc son père m'a dit, voilà comment ça s'est passé, il était allongé sur son lit, il essayait la guérison par le jeûne, donc il arrêtait de manger. Et à côté de son lit, il y avait une table de nuit sur laquelle il y avait son poste radio. Et à un moment, Jean-Louis a fait un faux mouvement. À cause de ce faux mouvement, le poste radio a été projeté à travers la fenêtre. Jean-Louis s'est levé très rapidement pour récupérer le poste radio avant qu'il s'écrase sur le sol, à plusieurs étages en bas. et il se serait empalé sur les vitres de la fenêtre. Bon, ça, et il serait mort comme ça dans son sang. Bon, ça paraît tout à fait invraisemblable. Je sais pas si ça s'est passé comme ça. Peut-être que le père n'a pas voulu me dire la vérité, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que Jean-Louis est décédé. Alors Jacques, je l'ai connu pendant donc la troisième personne que j'ai connue à Épinay. Il était sensiblement plus âgé que Jean-Louis. Jean-Louis, il avait une trentaine d'années quand il est mort. Alain, c'était 22 ans, quelque chose comme ça. Et Jacques, quand je l'ai connu à Épinay, il avait 36 ans. J'ai eu des contacts avec lui jusqu'à l'âge de, que je dise pas de blague, 36, jusqu'à 46 ans à peu près. Il venait chez moi de temps en temps. Il venait chez moi de temps en temps, mais un beau jour, j'ai perdu sa trace. Je sais qu'il y a eu des problèmes, il vivait avec sa tante. C'était un gars qui était divorcé. Et il y a eu un incendie dans sa maison. Ils ont quitté la maison et après, j'ai perdu sa trace. J'ai essayé de le retrouver. Il avait un nom qui était assez courant, son nom propre, que je ne vais pas dire ici, bien sûr. Et j'ai pas pu le retrouver. Donc le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était en 1990, donc ça fait une trentaine d'années. Je sais pas s'il est vivant, quoi que ce soit. Ou dernière nouvelle que j'ai eue de sa tante, il était dans une espèce de maison de retraite. Voilà. Alors qu'il était encore relativement jeune, puisqu'il devait avoir 45 ans environ. Un grand dépressif. Voilà. Donc après, bon, j'ai continué à vivre. Hein. J'avais pas de travail. Au début, j'ai essayé de travailler, puis j'ai eu une pension d'invalidité de la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie, de deuxième catégorie. Donc cette pension ne m'imposait pas de rester inactif. J'avais le droit de travailler comme tout le monde. Rien ne m'était interdit. Je bénéficiais seulement de la pension. Et j'avais toujours des rapports avec le professeur Baruch. Baruch, il me protégeait contre la psychiatrie, en fin de compte. Il était contre les internements arbitraires, il était contre la psychiatrie à la française. Et à un moment, il commençait à devenir vieux. Hein, et il faut savoir que le professeur Baruch, il a cessé ses activités à 102 ans. Hein. Et quand je lui disais, monsieur le professeur, parce que je me dis un jour il va mourir, je vais me retrouver sans protection, il faut que je trouve un confrère qui applique ces méthodes. Je lui dis, monsieur le professeur, vous avez un confrère qui applique vos méthodes? Il me dit, je crois bien que je suis le seul. Et effectivement, je crois qu'il était le seul. D'ailleurs, quelques années après, j'ai téléphoné à Philippe Bernardet. Philippe Bernardet, c'était la figure marquante du groupe Information Asile. Et j'y disais, qu'est-ce que vous pensez du professeur Baruch? Il m'a dit, c'est le seul qui est valable. Il m'a dit que c'est le seul qui est valable. Alors, il est possible que c'était pas le seul, parce que il y a eu une autre personne que connaissait Philippe Bernardet, qui est Catherine de Rivéry, qui a écrit un livre intitulé L'Enfer. Eux deux, Philippe Bernardet et Catherine de Rivéry, ont écrit un second livre intitulé Enfermez-les tous. Et Catherine de Rivéry, dans son premier livre, L'Enfer, qui a été écrit après la mort du professeur Baruch, c'est-à-dire vers 99, quelque chose comme ça, a dit qu'il y avait des médecins qui étaient quand même valables, des psychiatres, comme notamment Christophe André. Seulement l'ennui, c'est que Baruch, il dénonçait toutes les injustices dont sont victimes les psychiatrisés en milieu psychiatrique, alors que tous les autres, y compris ceux qui sont cités dans le livre de Catherine de Rivéry, ne dénoncent jamais rien. Et je pense notamment à Daniel Zaguri. Alors Daniel Zaguri, c'est un psychiatre expert qui exerce, je crois, à Ville-Évrard. Il a aussi un autre établissement en banlieue dans le 93. On l'interviewe souvent, il parle souvent dans des livres, dans des revues, dans des magazines. Enfin, c'est la vedette, on pourrait presque dire. Or, Daniel Zaguri, il dénonce jamais rien. Et je crois que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout dans le sens du professeur Baruch, et c'est quelqu'un, moi personnellement, il ne m'inspire pas du tout confiance. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Par ailleurs, bon, il faut savoir que j'avais un cousin qui a été traité en psychiatrie et qui lui aussi s'est suicidé. Il s'est tiré 2 balles dans la tête. C'était un ancien qui était, je dis ancien parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi, il avait une quinzaine d'années de plus que moi, il a fait la guerre d'Algérie. Il a vu des atrocités qui étaient commises par les deux camps. Et quand il revenait chez lui, il était en larmes. Et bien des années après, il a pris le pistolet de l'armée qu'il avait conservé. Il s'est tiré 2 balles dans la tête et il a mis plus de 24 heures à agoniser. Voilà. Et il avait été traité en psychiatrie. Il avait subi notamment des électrochocs. Voilà. Et je réfléchis. Donc, je ne trouvais pas de travail. J'ai arrêté mes recherches d'emploi. Et j'ai réussi quand même à me faire un peu d'argent. Je vendais notamment des maquettes d'avions que je construisais dans une boutique qui s'appelait Top Modélisme à la Porte Maillot. J'ai vendu aussi des magazines que j'achetais dans une braderie et que je revendais sur aux marchands des quais, etc. Bon, je me suis fait un peu d'argent comme ça. Bon, enfin, avec ma pension et comme mon logement, j'étais propriétaire, que mes parents m'aidaient un peu, j'arrivais quand même à un peu, même beaucoup même, j'arrivais quand même à vivre sans avoir un véritable emploi. Mais je considère quand même que travailler, c'est quand même très important, même pour l'épanouissement, ça fait partie de l'hygiène de vie. Vers 1988, je crois, ma mère était hospitalisée pour un cancer du poumon. Elle fumait quand même deux trous. Et j'ai acheté des magazines féminins, notamment Maxi, Femme Actuelle, des magazines comme ça. Et sur l'un des magazines, il y avait un reportage consacré à un homme qui disait être l'objet d'un miracle. Alors c'était un orthodoxe grec, soi-disant. Et lorsqu'il priait, ou dans certaines situations, il y avait de l'huile qui coulait miraculeusement de ses mains. Alors il y avait des gens qui venaient le voir, espérant la guérison d'un proche, une grâce particulière, etc., par cette huile. Et moi, je me suis dit, ben voilà, si ma mère décède, eh ben, j'irai voir ce monsieur, j'y demanderai de l'huile, et puis... Alors, ma mère, quelques années après, en 89, elle est décédée. Je suis allé chercher cette huile à l'église orthodoxe grecque. Et j'ai téléphoné à un spécialiste des miracles de l'église catholique, qui s'appelait le père Laurentin. Et le père Laurentin, il m'a dit, écoutez, on n'a pas pu enquêter, on ne sait pas d'où vient cette huile, bon, etc. J'en ai parlé à Baruch. Baruch, bon, c'était un croyant juif, j'ai déjà dit. Il m'a dit, écoutez, laissez tomber tout ça, n'utilisez pas cette huile, vous allez tomber dans l'obsession, laissez tomber tout ça. Bon, c'est à peu près ce qu'il m'a dit. Et j'ai téléphoné notamment aux témoins de Jéhovah, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, bon, cette huile, il ne faut pas s'en servir, si jamais votre mère elle est ressuscitée, elle sera habitée par un esprit qui ne sera pas le sien, enfin bref, etc., etc. Bon. Et je me suis méfié, donc je n'ai pas utilisé l'huile, je laisse ça comme ça, l'huile, je ne m'en sers pas. Seulement l'ennui, c'est que par la suite, j'ai téléphoné à des assistants du père Laurentin qui m'ont dit, écoutez, cette huile, en fin de compte, l'homme qui avait l'huile qui coulait de ses mains, c'est un escroc. Enfin, ils m'ont pas dit que c'était un escroc, ils m'ont dit, il est en prison. Enfin, la personne que j'ai eue m'a dit, il est en prison. Et il a escroqué des sommes considérables. Il a jamais avoué qu'il était coupable. Et j'ai cru comprendre qu'il voulait me dire que cette huile, ça venait du diable, en fin de compte, plutôt que de Dieu. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours une tendance religieuse ou mystique, appelons ça comme on veut. J'étais toujours ce qu'on appelle un chercheur de vérité pour savoir quelle est la vraie religion, etc., etc., etc. Mais je suis né catholique. Et donc j'ai pris peur de cette huile, elle était dans un pot. Quand je suis allé la chercher à l'église orthodoxe grecque, j'ai tendu un pot de confiture que j'avais préalablement lavé, et un membre de cette église orthodoxe grecque a pris un coton imbibé de cette huile, l'a mis dans le pot, et moi j'ai refermé le pot, j'ai mis ça sous mon lit dans ma chambre de mon appartement. Seulement à partir de ce moment-là, quand on m'a laissé entendre que cette huile venait du diable, j'ai eu une phobie, je ne sais pas si le mot convient, enfin une peur plutôt, de cette huile. Alors là, j'ai recommencé les lavages de main. Je voulais pas avoir de l'huile, la moindre parcelle d'huile sur la main, même un atome, un seul atome. Donc je me disais, si je tire la main à quelqu'un, est-ce que ça va pas y attirer des nuisances, puisque ça vient du diable et ça peut très bien lui nuire. Donc enfin, ça prenait des proportions considérables. Et alors dans l'appartement, j'arrivais plus à vivre. Je me lavais les mains trop souvent. Je prenais tout un tas de précautions extrêmes. C'était très invalidant, c'était vraiment une vie d'esclave, si on peut dire. Alors, je n'arrivais pas à vivre dans cet appartement parce que c'est là que se trouvait le pot d'huile sous mon lit. J'ai dit à mon père, il faut qu'on... ma mère était décédée. Hein. J'ai dit, il faut qu'on quitte cet appartement et qu'on aille vivre à l'hôtel quelque temps, on reviendra après. Et on a été à l'hôtel à partir de 93, c'est-à-dire 2 ans, si je ne me trompe, après la mort de ma mère, d'hôtel en hôtel, notamment à Saint-Denis. Et puis un beau jour, mon père m'a dit, voilà, j'ai mal au poumon. Il est allé à l'hôpital et il est mort à l'hôpital. Moi, j'étais toujours pas prêt à rentrer chez moi, donc j'ai dépensé pas mal d'argent pour rester d'hôtel en hôtel. Un beau jour, j'ai plus d'argent, j'étais obligé de faire la manche à Saint-Denis, dans le quartier de la Basilique, devant le magasin Carrefour. Donc, après un certain temps que j'étais obligé de faire la manche pendant tout ce temps-là, et à un moment, j'ai pas pu payer l'hôtel et je me suis trouvé complètement à la rue. Et il y a un SDF qui m'a dit, écoute, va à Paris, tu te feras plus d'argent là-bas, place de la Concorde. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais y aller. J'ai été place de la Concorde, et place de la Concorde, je me suis aperçu que c'était pratiquement impossible de se faire de l'argent. Selon le SDF, on pouvait se faire 1000 francs par jour, mais moi, j'ai constaté que c'était plutôt zéro. Donc je suis parti, et j'ai fait la manche, après avoir regardé à gauche, à droite, devant le McDo de la place Voltaire, ce qu'on appelle plutôt la place Léon Blum. Ça se trouve sur la rue de la Roquette, pas très loin de la place de la Bastille. Et dans les débuts, je dormais dans le métro. Hein. L'ennui, c'est que le métro, quand il était ouvert, c'est-à-dire à partir de 5h du matin, 5h, 5h30, seulement l'ennui, c'est qu'en 10 jours, je me suis fait voler à peu près 8 fois. Donc j'ai renoncé à dormir dans le métro. Et ce que je faisais, c'est que je faisais la manche très tard, jusqu'à 2h du matin, je crois, et ensuite j'allais dormir dans une église, l'église Saint-Gervais, Saint-Protais, qui se trouve à côté de la mairie de Paris. Alors souvent, quand après avoir fait la manche place Léon Blum, devant le McDo, je partais en direction de l'église Saint-Gervais, et arrivé là, je dormais des fois l'après-midi sur un banc. Et un beau jour, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais enfin c'est la même période, je passe devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis qui se trouvait sur le trajet entre justement la place de la Bastille et la place du Châtelet. J'étais devant la porte et j'hésitais à rentrer. Je me disais, voilà, je suis prêt à rentrer chez moi maintenant. Je vais demander de l'aide, notamment parce que j'ai les jambes qui gonflent, j'avais de l'œdème, j'en ai toujours d'ailleurs. Et j'aurais besoin d'un lieu pour pouvoir m'allonger, pour pouvoir dormir. Alors je rentre dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, il y a le curé qui m'accueille, c'est le père Éric de Moulin-Beaufort, il m'a très bien reçu, et j'ai expliqué la situation, j'ai dit voilà, j'aurais m'allonger, etc., etc. Il me dit bon ben revenez dans quelques jours, alors on a pris un rendez-vous, et le jour avant ce rendez-vous, il m'a mis en contact avec un prêtre de l'église Saint-Ambroise, qui se trouve pas loin de la place Léon Blum-Voltaire, où je faisais la manche devant le McDo. Et c'est le prêtre que je vais voir là, qui s'appelait le père de Recours, je crois. Le père de Moulin-Beaufort lui avait dit de me trouver une chambre pour la nuit. Et il m'a trouvé une chambre pour la nuit. Bon, une nuit, c'était pas beaucoup pour dégonfler mes jambes, mais c'était quand même bon à prendre. Et puis le jour du rendez-vous, je vais voir le père Éric de Moulin-Beaufort. Il me met en contact avec un paroissien qui s'appelait Monsieur Valéry. Monsieur Valéry, c'était un responsable d'une association catholique qui s'appelle la Conférence Saint-Vincent de Paul. Je vais le voir et j'y explique la situation en commettant une erreur. Le professeur Baruch m'avait dit, quand on a été en psychiatrie, c'est jamais une bonne chose de le dire. Effectivement, il y a des gens qui le disent, ils perdent leur boulot, des fois c'est leur femme qui les fait interner. J'ai déjà eu un exemple d'un homme dépressif qui était rentré de l'hôpital, et pendant son sommeil, sa femme, il y a des années que ça s'est passé, ça, a téléphoné à la police, il s'est fait réinterner. Donc c'est jamais une bonne chose de le dire quand on a été psychiatrisé. Malheureusement, c'est que quand on a cette souffrance, même quand les problèmes psychiatriques sont supprimés, on a tendance à vouloir le dire. C'est un soulagement de parler, mais c'est dangereux aussi. On peut perdre, je le répète, son emploi, avoir des ennuis, être victime de faux témoignages du voisinage, être réinterné, etc., etc., etc. Donc je dis tout à M. Valéry, ce responsable de la Conférence Saint-Paul. Je me dis, voilà, on est entre catholiques, on peut faire confiance, on est tous frères, etc., etc. Mais ça, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Et comme à la conférence à Saint-Paul, j'arrivais pas vraiment à obtenir ce que je voulais, à savoir une chambre d'hôtel avant de pouvoir rentrer chez moi, j'aurais pu rentrer tout de suite. Seulement, c'était pas vraiment possible, parce que durant tous ces années de manche, etc., je payais plus les charges. Et si j'étais retourné chez moi, on m'aurait dit, ben, on est content de vous voir, vous nous devez tant. Et comme je pouvais pas payer, c'était pas possible. Donc, M. Valéry, j'avais expliqué tout ça, les charges que je n'avais pas payées, mes divers problèmes. Alors, il a établi un dossier. Et je le répète, j'y ai parlé de ma psychiatrisation du professeur Baruch qui était décédé. Entre autres. Enfin, il faut savoir que le professeur Baruch est décédé en 97 à peu près. Il ne m'obligeait pas à venir le voir. Il me disait souvent, vous êtes sorti de la psychiatrie, c'est quand même une bonne chose. Vous êtes sorti de la psychiatrie, c'est quand même une bonne chose. Et donc, le professeur Baruch est décédé durant la période où j'étais encore à l'hôtel, que mon père était décédé et moi, je n'étais pas encore prêt de rentrer chez moi. Bon, je ne parle pas dans l'ordre chronologique, c'est difficile de se rappeler tout d'un seul coup comme ça. Donc, M. Valéry savait que le professeur Baruch était décédé, il savait ma psychiatrisation. Et Monsieur Valéry me prend en charge, mais bon, j'obtenais pas exactement ce que je voulais. Il m'avait donné un billet de 200 francs, je crois, pour aller rechercher mes bagages qui étaient restés dans un hôtel. Parce que j'arrivais de temps à autre à me payer des chambres d'hôtel quand même avec la Manche. Et puis, un beau jour, j'ai renoncé à continuer à voir Monsieur Valéry parce que j'obtenais pas ce que je voulais. Il fallait que j'arrête la Manche, ensuite que je fasse le trajet, je crois, à pied jusqu'à l'association. Je perdais de l'argent, je perdais du temps et j'obtenais pas ce que je voulais. Donc j'ai laissé tomber et j'allais dormir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les après-midi, sur un banc à l'église Saint-Gervais, ce monastère ouvert au public. Et là, il y a une religieuse qui me voyait de temps en temps et qui me prend en amitié. Elle s'appelait Sœur Maria Jesús. Elle était d'origine espagnole. Jesús en espagnol, ça veut dire Jésus. Et elle me met en contact avec un gars qui travaillait dans l'église qui s'appelle Anthony Muti. Et Anthony Muti, il avait une fonction dans l'église, il avait un local dans l'église même où il y avait des écrans de télévision. Chaque écran de télévision était relié à plusieurs caméras, à une caméra dans l'église. Et son rôle, c'était de choisir les scènes. Il avait tout un tas de moniteurs, en fin de compte, dans son local, ses écrans de télé. Il choisissait les scènes des différents offices et il envoyait ça sur la chaîne KTO, qui est la chaîne catholique qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Mais il avait un rôle accessoire. Ce rôle accessoire, c'était de s'occuper des SDF. Et alors, cette sœur me met en contact avec lui. Lui, il connaissait les associations. Et il me met en contact avec une autre association que la Conférence Saint-Vincent de Paul. C'était le Secours catholique de la Cité Saint-Martin. C'est un établissement qui se trouve à côté de la Bastille. Et là, je rencontre une travailleuse sociale qui s'appelle Madame Liot. Et Madame Liot, elle me trouve une chambre d'hôtel qui s'appelait l'Hôtel Maryse. Du côté, je crois, de la place de la République, si je me trompe. Je suis resté dans cet hôtel pendant peut-être 2 mois. Donc c'était bon à prendre, j'avais obtenu ce que je voulais. Et elle me donnait aussi des tickets restaurants, des tickets services pour que je puisse acheter différentes denrées pour pouvoir me nourrir, et j'avais plus besoin de faire la Manche. Et un beau jour, je vais voir M. Valéry, j'ai dit, écoutez, M. Valéry, est-ce que vous pouvez me donner une copie du dossier que vous avez établi pour moi ? Alors il me donne une copie, sans aucune difficulté, et moi bêtement, enfin c'est pas tellement bêtement, c'est plutôt confiant, hein, à l'époque je vous l'ai dit, j'avais fait confiance à M. Valéry, j'ai fait confiance à Mme Liot aussi, je montre la photocopie du dossier à Mme Liot. Alors Mme Liot, j'y avais pas dit ma psychiatrisation, j'avais dit que j'avais une pension d'invalidité, je voulais pas lui dire la raison de cette pension qui était psychiatrique. J'y avais dit que j'avais quitté mon appartement et je voulais pas lui donner la raison pour laquelle j'avais quitté cet appartement. La raison, c'était cette huile maléfique, si l'on peut dire. Et c'était convenu. Elle me disait, d'accord, bon, mais vous ne me dites pas ça. Et on va essayer de remettre les choses dans l'ordre, vous faire retourner chez vous, etc., etc. Seulement là, je lui montre la photocopie du dossier de M. Valéry. Et du même coup, elle prend conscience que de la raison pour laquelle j'ai une pension. Elle sait maintenant que j'ai cette pension pour raison psychiatrique. Et un beau jour, pas longtemps après, elle me dit, est-ce que vous accepteriez qu'à notre prochain rendez-vous, il y ait deux assistantes sociales qui y assistent ? Moi, j'ai dit oui, elle m'avait trouvé une chambre d'hôtel, je voulais être conciliant. Et le jour convenu, j'arrive dans le local, donc de la cité Saint-Martin, et je vois les deux assistantes sociales qui étaient là, debout. Elles souriaient, elles n'ont pas prononcé un seul mot. Madame Liot était assise à son bureau, elle me demande de m'asseoir en face d'elle, et là, elle me tient un propos qu'elle ne tenait jamais d'habitude, elle me pose des questions qui n'avaient rien à voir avec celles qu'elle me posait dans les précédents rendez-vous. Elle me demande notamment, est-ce que vous avez de l'espoir, des choses comme ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dès que je suis arrivé dans le bureau de Madame Liot, avec ses deux assistantes sociales debout, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis dit, ça, on est ensemble en train d'essayer de me faire subir un examen psychiatrique à mon insu. Et je pense, j'en suis sûr, que les deux assistantes sociales, en fait, étaient deux psychiatres. Et après l'entretien avec Madame Liot, voilà, je suis parti. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, ça me revient. À la fin de l'entretien, elle m'a dit, bon, ben attendez dans le bureau, je vais revenir. Elle est partie avec les deux assistantes sociales dans un autre bureau de l'établissement. Et là, j'ai attendu peut-être pendant 2 heures. Ça fait long, 2 heures. 2 heures seule dans le bureau de Madame Liot. Puis elle est revenue, elle m'a dit, mais vous pouvez partir. J'étais pas à mon aise, sans doute. Et à ce moment-là, j'arrive à... Elle me propose des hébergements à gauche et à droite, dans une pension de famille, dans les locaux de l'armée du salut, je crois. Et puis aussi dans une structure qui s'appelle le centre Baudricourt. Ça se trouve du côté de Tolbiac. Et alors, tous les endroits où j'allais, c'est toujours négatif. Alors ça me paraissait quand même un peu étrange. Et puis en dernier recours, donc elle me propose ce centre Baudricourt, je vais là-bas. Et ils me disent, bah, nous on peut vous accepter, il n'y a pas de problème. Ils disent, donnez-nous votre carte d'identité. C'était un endroit assez particulier, hein, parce que il y avait un employé qui était en blouse blanche, par terre c'était du carrelage. Ça m'inspirait pas trop confiance, mais enfin je marche. Je présente ma carte d'identité. Et puis je suis sorti, j'ai marché peut-être une dizaine de mètres, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Ça sentait un peu trop la psychiatrie dans ce centre. Je suis revenu sur mes pas et j'ai dit, ben, en fin de compte, je renonce. Alors ils m'ont rendu ma carte d'identité au cas où je leur avais laissé. Et puis je suis parti. Et j'ai su longtemps après, par la bouche d'André Bitton. André Bitton, c'était le président du groupe Information Asile vers 2001, 2002, par là, que le centre Baudricourt, justement, était en lien direct avec Sainte-Anne. Donc j'ai bien fait de fiche le coup. Et voilà. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que c'est quand même important. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que le jour où mes parents m'ont fait interner à Ville-Évrard, quand j'ai su qu'il y avait une ambulance qui allait venir me chercher chez moi, j'ai fui de mon appartement. Et j'ai tourné autour de mon immeuble. À un moment, j'ai vu une voiture de police, un fourgon de police arrêté devant chez moi. Et je me suis éloigné, donc. Mais il y a une voiture de petite taille, si je puis dire, qui est arrivée à côté de moi et qui... Les policiers sont descendus du véhicule et en fin de compte, ils m'ont interpellé et je suis monté dans le véhicule. Et là, le véhicule m'a emmené au commissariat de la Courneuve parce que le Bourget dépendait de la Courneuve à l'époque. Il n'y avait pas de commissariat à l'époque au Bourget. Et... de là, on m'a envoyé à l'I3P. Alors l'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Ça se trouve dans l'enceinte de Sainte-Anne. C'est là que l'on place les gens qui sont, disons, qui ont créé des troubles de l'ordre public ou alors qui se sont enfuis comme moi. Alors il y a une chose importante que je dois dire quand même. Hein, c'est pas très cohérent ce que je dis peut-être parce que c'est difficile de dire toutes sortes de choses d'une manière linéaire et d'une manière chronologique. C'est que l'I3P, c'est là où s'est retrouvé un certain Laurent Wetzel. Laurent Wetzel, c'était le maire de Sartrouville, il y a 25 ans à peu près peut-être. Et ce maire-là, il a voulu se représenter aux élections municipales. Ses amis politiques lui ont dit non, ne te représente pas, on a quelqu'un à mettre à ta place. Lui, il a dit non, moi je me conserve encore, je conserve ma position, je veux rester maire, etc. Bon. Il s'est donc présenté, il a voulu se présenter au second tour des élections municipales de Sartrouville. Et à ce moment-là, il y a une voiture de police qui s'est arrêtée devant chez lui, avec un commissaire de police qui s'appelait Maffre, je crois, une patrouille de la BAC. Il s'est fait interpeller en toute illégalité, sans les papiers nécessaires pour procéder à cette interpellation, et on l'a mis à l'I3P. Il y est resté pendant une douzaine de jours, avec impossibilité de téléphoner à son avocat, impossibilité de téléphoner à sa femme. Il a écrit un bouquin, parce qu'il en est sorti quand même, heureusement, intitulé « Un internement politique sous la Ve République » en sous-titre « Barbouze et blouse blanche ». Donc il faut savoir qu'à l'I3P, on l'a mis à l'I3P, c'est là où on met les gens, justement, d'une manière légale, mais aussi d'une manière illégale. Il semblerait, selon un livre intitulé « Asile de la honte », qu'il y aurait 10 000 internements abusifs en France par an. Un livre qui est paru il y a quand même une quinzaine d'années. Mais la situation de la psychiatrie en France ne s'est pas améliorée. Donc il y a pas mal de bouquins qui critiquent justement la situation des psychiatrisés qui sont encore valables malgré que ces livres sont anciens. Donc j'en reviens à mon histoire maintenant. C'est que après que j'ai senti qu'il y avait eu cette expertise illégale faite à mon insu dans les locaux de la cité Saint-Martin qui dépendent du Secours catholique, Madame Heuliot est une laïque, c'est pas quelqu'un qui est une religieuse. Peut-être même qu'elle croit pas du tout, qu'elle a pas la foi, parce qu'il faut savoir que dans l'église catholique, on emploie aussi des gens qui ne sont pas du tout catholiques, hein, ce sont des salariés. Donc je me suis méfié, et tout de suite, après cet échec de Baudricourt, là où j'ai repris ma carte d'identité, je suis passé chez moi, pour la première fois après toutes ces années, et j'ai pris de l'argent dans un buffet. Alors il faut savoir d'où vient cet argent. C'est que mon père, je le logeais chez moi. Pendant des années, de 1976 jusqu'à son décès, vers 95, je le logeais chez moi. Alors tout d'abord avec ma mère, parce que ma mère est décédée. Et mon père, il me disait, voilà, je vais te payer puisque tu nous loges. Alors je disais, papa, non, je ne suis pas d'accord que tu me payes, puisque toi, tu m'as logé pendant de nombreuses années sans me faire payer. Il est normal que moi-même, je ne te fasse pas payer. Mais lui, il y tenait. Donc, il entassait des billets dans un buffet de la cuisine. Et moi, lorsque je suis revenu après le décès de mon père, pour la première fois dans mon appartement, j'ai pris tous ces billets. C'était des francs. Entre-temps, c'était passé à l'euro. J'ai changé tous ces billets. Il y en avait à peu près pour 25 000 euros. Donc, une somme assez importante. 25 000, 30 000 euros. Et avec ça, j'ai pu me payer l'hôtel. Et je me suis mis en contact avec le GIA, le groupe Information Asile. Parce que je voulais justement éviter des ennuis, je voulais trouver un avocat pour qu'il puisse prendre contact avec le syndic de mon immeuble pour pouvoir payer les arriérés de charges, etc., etc., etc. Puis surtout pour éviter les conséquences de cette expertise psychiatrique illégale. Alors il faut savoir que peu de temps après cette expertise illégale, on a reçu, la conférence en Saint-Paul a reçu, où je n'allais plus pourtant, une lettre de la préfecture de Bobigny. C'était sûrement une convocation pour un examen. La suite, ça aurait été probablement une mise sous tutelle ou un internement, donc je n'y suis pas allé. J'ai jamais été chercher la lettre, on m'a dit, voilà, il y a une lettre pour vous là-bas, j'ai jamais été la chercher, une lettre recommandée. Voilà. Donc je suis passé chez moi, j'ai pris cet argent, j'étais au GIA, groupe Information Asile. Là, il y avait le président de l'époque qui s'appelait André Bitton. Philippe Bernardet, c'était la figure historique, si l'on peut dire, du GIA, puisqu'il avait écrit plusieurs livres, notamment un livre « Les dossiers noirs de la psychiatrie », je crois tout d'abord. Ensuite, un second livre avec Catherine Delry-Véry intitulé « Enfermez-les tous », des livres majeurs, très importants. Et seulement, Philippe Bernardet, il venait plus au GIA. Il venait plus parce que, notamment, il avait un cancer de l'intestin. André Bitton me met donc en contact avec un de ses avocats qui s'appelait donc Aymeric Guléria. Je prends donc Aymeric Guléria comme avocat. Je lui demande de prendre contact avec le syndic de mon immeuble pour pouvoir payer les charges qui étaient en retard. Il y avait pas mal une somme quand même assez considérable. Et je lui parle aussi de mes problèmes à l'église Saint-Germain. Gervais et de cette expertise psychiatrique faite à mon insu. Problème à l'église Saint-Gervais parce qu'il faut savoir que les résultats de cette expertise ont été connus par des religieux de l'église Saint-Gervais, ce qui a entraîné une ségrégation à mon écart qui était assez cachée, mais enfin je m'en rendais compte quand même assez facilement. Notamment quand il y avait des femmes qui me tournaient autour, parce que bon, il y a des femmes à marier dans cette église, des femmes relativement âgées, bon ben on se débrouillait, enfin les femmes me fuyaient plus ou moins. Ça, je pense que c'est des gens de l'église qui leur disaient qu'il fallait pas qu'elles me côtoient, parce qu'il faut savoir que dans l'église, il y a ce qu'on appelle le code de droit canon. Et selon le code de droit canon, les psychiatrisés sont pas tellement prisés pour être mariés. Au contraire, il y a même on évite de marier les psychiatrisés, si je puis dire. Donc je prends Aymeric Guléria, et Aymeric Guléria n'était pas satisfaisant, donc à un moment on a cessé nos relations. Alors le GIA, groupe Information Asile, voilà ce qui s'est passé, j'ai su par la suite les événements qui ont lieu justement dans cette association. C'est que à un moment, Philippe Bernardet en était le président, et ça marchait très bien. C'était une association qui fonctionnait exactement comme il faut. D'ailleurs, dans la revue Maxi, qui était une revue féminine mais amie du groupe Information Asile et de la cause des psychiatrisés, il y a eu une période au GIA où on procédait à des évasions dans les hôpitaux psychiatriques. Du temps de Bernardet, ça a eu peut-être lieu, je ne sais pas. Mais du temps de Bitton, c'était pas du tout le cas. J'en avais parlé à André Bitton, j'ai dit alors des évasions, il m'a dit non, on fait plus ça, maintenant c'est légal, on s'occupe de la légalité, il n'y a plus question de faire de. Got it. évasions de Biton, c'était pas du tout le cas. J'en avais parlé à André Biton, j'ai dit alors des évasions, il m'a dit non, on fait plus ça, maintenant c'est légal, on s'occupe de la légalité et il n'est plus question de faire d'évasion. J'ai parlé à André Biton, j'ai dit alors des évasions, il m'a dit non, on fait plus ça, maintenant c'est légal, on s'occupe de la légalité et il n'est plus question de faire d'évasion. Bernardet donc avait été président du groupe Information Asile. Ensuite, il y a eu un autre personnage qui a été président, c'était le père Langlois. Et le père Langlois, c'était quelqu'un qui était dévoué, qui aurait obtenu une victoire en faveur des psychiatrisés au niveau européen d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas. Le père Langlois, je l'ai rencontré au Crous. C'était une personne âgée qui bénéficiait des services de la mairie pour pouvoir manger justement dans ce milieu estudiantin. Donc j'ai récupéré au Crous. C'était une personne âgée qui bénéficiait des services de la mairie pour pouvoir manger justement dans ce milieu estudiantin. Donc j'ai récupéré cet argent, je suis allé voir le GIA, j'ai pris Emery Guleria comme avocat. Mais il ne me satisfaisait pas. Donc je me suis débarrassé, j'arrivais à payer les charges de mon appartement, et je n'y suis pas rentré parce que je me suis dit je vais avoir des problèmes à cause de l'expertise psychiatrique que j'avais subie et à laquelle j'avais répondu. Donc je suis resté dans cette situation avec assez d'argent pour pouvoir vivre à l'hôtel sans rentrer chez moi. Puis un beau jour je me suis retrouvé sans argent et il m'a fait répondu. Donc je suis resté dans cette situation avec assez d'argent pour pouvoir vivre à l'hôtel sans rentrer chez moi. Puis un beau jour je me suis retrouvé sans argent et il m'a fallu refaire la manche encore un coup. Alors là j'ai fait la manche à Bois-Colombes devant le Monoprix et comme je faisais partie d'un groupe de prières à l'église Saint-Gervais qui s'appelait le Cénacle, je remplaçais
Oui, alors c'est un peu de manière assurée maintenant que se termine l'entonnoir.
Le président d'ailleurs de cette association, le responsable plutôt.
Eh bien, nous dirons que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Au revoir.